entretien, pensez Eurospec, euro-spec.ca.
Gravel dans le retour, un show qui échappe à rien de l'actualité, mais qui l'échappe une fois de temps en temps pour te mettre un sourire d'en face.
C'est la première fois que je dis ça de mon existence, mais je trouve vraiment que ce show-là manque de sérieux. Rappel à l'ordre.
Dur, dur sur le moral de bien du monde. Manque de luminosité en fin de journée. Fait déjà noir à Québec, 16h06. Problème de circulation, Audrey.
Peut-être commencer par le texto qui est entré un peu plus tôt. Là, il y a une partie de la chaussée qui se serait effondrée sur le chemin Saint-Louis dans le secteur des hôtels. Il n'y a pas plus de détails pour le moment. Sachez-le, dès qu'on en a, on vous tient au courant, évidemment. Sur la capitale, direction ouest, entre Robert Bourassa et Laurentienne, il y a de bons ralentissements qui sont déjà entamés. L'entrée du pont aussi, direction sud, là, à partir d'Henri IV, c'est super difficile d'entrer sur le pont Pierre-Laporte. La rive sud, ça roule encore super bien pour l'instant. C'est quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-1021, mais c'est un doux lundi.
Ça fait drôle de commencer une entrevue avec des excuses, mais là, on l'a complètement échappé, puis ça fait quasiment 10 minutes qu'il nous attend. Monsieur le maire, Bruno Marchand, comment ça va?
Ah, ça va bien. C'est moi qui m'excuse de ne pas être en studio avec vous. C'était pas possible après-midi.
OK, ça
mais
part.
Je suis là au téléphone.
Ça part égal.
On est quitte.
Ouais, on va dire qu'on est quitte. Monsieur le maire, beaucoup de choses à jaser encore une fois dans l'actualité. Puis je veux commencer avec les fameux audits de performance du RTC. Je me souviens que lors de notre conversation précédente, vous nous aviez dit on sait pas mal à quoi s'attendre. C'est-tu à ça qu'on s'attendait, genre l'avant-dernière place de toutes les sociétés de transport en commun de la province?
Bien, en fait, deux choses. La première, c'est qu'on avait les données de notre rapport, mais on n'avait pas les comparatifs entre sociétés.
Oui, mais je regarde le Canadien jouer depuis le début de la saison. J'ai pas besoin de regarder jouer les autres équipes pour savoir qu'ils sont poches.
Attends. Il y a du monde au camp d'entraînement quand ils jouaient tout seul, les Bleus contre les Rouges, qui trouvaient pas mal bon parce qu'ils allaient faire les séries.
Donc, vous avez eu une mauvaise évaluation de votre RTC?
Non. Dans le sens où le comparatif, il nous a... Est-ce qu'il faut s'améliorer? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut dire, hey, c'est pas bon, puis le RTC est bon? Mais non, c'est pas ça. Le RTC doit s'améliorer. Il a déjà commencé, et la ministre l'a dit même. La ministre Guilbeault l'a dit dans sa conférence de presse. La rationalisation, certains enjeux liés au financement, le travail est commencé au RTC. Elle l'a nommé. Alors, ça commence pas avec les audits, là. C'est commencé depuis des mois.
L'explosion de 38 % du nombre de cadres, on fait, comment est-ce qu'ils appellent ça, de la réunionnite aiguë?
Selon le syndicat qui est sorti aujourd'hui, effectivement.
Ouais, mais là, ça, faut en prendre pour en laisser, dans le sens où...
Mais le chiffre est bon.
Parce que le syndicat, travaille, là, le syndicat des inspecteurs et répartiteurs est sorti en disant que dans leur département, à eux, il y avait 7 gestionnaires pour 46 personnes. C'est un ratio de 1 quart pour 6 employés, d'où leur expression de réunionnette aiguë.
Oui, mais ça, là, ce ratio-là, ça dépend de ce que tu fais. Il y a des jobs là, où tu as un gérant pour 6 personnes. Est-ce que c'est la bonne chose ou pas? Moi, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on rencontre les gens de RCGT là, qui ont fait le rapport. Mm-hmm. On va les rencontrer cette semaine. La ministre a accepté. On les rencontre ou leur parle au téléphone. On va voir s'ils se déplacent à Québec. Pourtant, je vais leur poser des questions. Puis je veux comprendre quelle est leur analyse extérieure pour justement regarder avec le RTC les bonnes choses à mettre en place pour la suite. Mais c'est tu sais, il faut faire attention à ces calculs-là. Est-ce qu'ils sont les bons, est-ce qu'ils ne sont pas les bons? On va le voir. Est-ce qu'il faut être meilleur? Oui. Est-ce qu'être neuvième, c'est une bonne chose? La réponse est non.
Est-ce que ce qu'on voit dans ce document-là, qui est très volumineux là, en passant, est-ce que ça peut amener des rajustements de la taxe à l'immatriculation? Parce qu'on pensait avoir un excellent système de transport en commun et c'est sur cette base-là qu'on demandait davantage de contributions aux automobilistes. Là, on voit que le rapport n'est pas nécessairement le même.
En fait, la taxe d'immatriculation, elle sert à amener des nouveaux services. Et ça, on l'a dit, là, il y a 4 nouveaux services par année. Un métrobus, une station, un terminal où les gens vont pouvoir se stationner, ils vont pouvoir prendre l'autobus, une station à vélo, des flexibus, pas une station, mais un désecteur à vélo, les flexibus. À chaque année, dans la couronne nord, on va amener 4 services, et 4 services de plus à chaque année. C'est à ça que sert l'argent. Le reste, le travail que doit faire le RTC, c'est continuer de faire en sorte d'utiliser l'argent au meilleur escient, argent qui vient principalement des utilisateurs et de la ville, entre autres, là, c'est les deux plus grandes sources de financement, pour faire en sorte de modifier les services. Là, on n'est pas dans de nouveaux services. On est en train de dire, ben, est-ce qu'il ne faut pas améliorer le flexibus, par exemple, dans le secteur nord, et diminuer certains parcours pour faciliter les déplacements, d'avoir plus de transport à la demande? C'est le genre de choses qui sont soulignées dans le rapport et vers lesquelles on allait déjà. On a déjà beaucoup de flexibus dans le courant nord et on va en ajouter Parce que c'est ça que les gens souhaitent.
Mais par contre, quand on regarde les dépenses du RTC, M. le maire, on voit qu'il y aurait peut-être eu moyen de mieux gérer les choses pour être en mesure, justement, d'offrir ces nouveaux services-là sans taxer le citoyen. Il me semble que moi, comme citoyenne, si, mettons, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits, on se rend compte, entre autres, que toutes les express qu'on n'a pas réussi à rentabiliser à court terme, là, depuis, on n'a pas réussi à rattraper, en fait, on les place autrement pour, justement, développer des services qu'on nous promet depuis des années. Peut-être que je serais plus encline à dire, hey, oui, c'est vrai qu'il faut donner un coup de pouce par en avant.
Parce que là, on a l'impression de payer le salaire des cadres. Oui,
ouais, mais c'est pas ça. Là. Je comprends. Ce que vous venez de dire là, je le comprends parfaitement. Moi, ce que je me suis engagé à faire avec la taxe d'immatriculation, c'est des choses qu'on ne faisait pas. C'est faire des choses qui n'étaient pas faites pour servir les gens de la Couronne Nord au nord de l'autoroute de la capitale. Ça, ça sert à ça. Après ça, le travail de réingénierie, d'organisation, de regarder les parcours puis de faire en sorte de voir quels sont comment on peut les maximiser le plus, il se fait et il va continuer de se faire, il va falloir continuer de l'accélérer. Mais c'est deux choses différentes.
C'est le temps de parler de la piste à bosse de Beauport.
Oui.
Oui. Vous savez de quoi je parle? Vous savez, c'est la fameuse piste cyclable que probablement tout le monde a vu la semaine passée aux nouvelles. Un modèle que vous ne reproduirez pas ailleurs dans la ville, ce qui m'amène un peu de soulagement, mais beaucoup de questionnements aussi à savoir comment ça se fait que dans le processus où on fait une piste à bosse cyclable, comment ça se fait que dans le processus, il n'y a pas personne qui a arrêté à un moment donné pour dire...
Hey, après quatre entrées, mettons.
Je pense que ce qu'on est en train de faire là, un, ça n'a pas de maudit bon sens, puis deux, il faudrait arrêter avant de le finir pour peut-être enligner ça d'une autre façon. Moi, ce genre de petite anecdote-là, ça fait en sorte que je m'inquiète sur les processus de décision d'une ville qui essaie de développer plusieurs choses en même temps, puis je trouve que ça donne un peu de gaz dans la voiture du chef de l'opposition, Claude Villeneuve, quand il dit qu'on bâcle certains projets puis qu'on veut aller trop vite et qu'on réfléchit pas assez.
Ben oui, mais ce que Claude Villeneuve vous dit pas, c'est que des projets, on en a fait plus de 290 cette année en ingénierie. 290 pour lequel il n'y a pas ce questionnement-là qui est posé sur la rue du Sénac.
Oui.
Si on frappe pour 289 sur 290, je pense qu'on frappe très fort, là. Fait qu'est-ce que ce projet-là, quand on le regarde, il faut le répéter? Je lui ai dit non, on le répétera pas. Il n'y en a pas question. Maintenant, quand il a été présenté, quand on l'a vu, ça avait pas l'air de ça. Là, c'est le problème que ça crée, c'est l'aspect où on voit, comme tu dis, les bosses qui donnent un effet qui n'a pas de sens.
Non.
Ça étant dit, ça n'a pas juste des défauts. Est-ce qu'on aurait pu le faire autrement? La réponse est oui. Ça n'a pas juste des défauts. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui vont utiliser cette piste-là. Là. C'est pas mauvais à 100%. Je répète, là, je ne justifie pas, on le refera pas. Mais ça permet à des jeunes, il y a trois écoles primaires à côté de ça, les jeunes de se rendre en vélo. Ça éloigne le piéton, qui est souvent un jeune là aussi qui s'en va à l'école. L'éloigner de l'espace routier, ça permet que quand il prend une décision et il se garoche vite dans la rue, ben, la voiture a plus de chances de le voir venir.
C'était-tu votre façon de compenser pour la marmotte, monsieur le maire?
Je savais que tu allais me dire ça. Non, pas du tout. Non, parce que évidemment, si on l'avait vu comme ça avant, on l'aurait pas fait.
Oui, mais justement, ça aurait été le fun que quelqu'un lève le drapeau en disant « Hey, on est désolé, on l'a avancé d'une couple de mètres, puis on se rend compte que ça n'a pas de bon sens. »
Je propose la loi du deux entrées. Tu sais, oui. Après deux entrées, s'il y a de quoi qui marche pas, on pourrait arrêter le projet peut-être, puis s'en reparler un peu, monsieur le maire.
Plutôt que de l'amener à terme.
Là, en même temps, là, c'est pas 28 kilomètres qui ont pris 6 ans à faire, là, c'est 900 mètres. Ça s'est pas fait sur 3, 4, 5 mois ou après le premier mois, les gens ont continué. Là. Il y avait une volonté de rassurer les jeunes et les parents qui transitent dans ce corridor scolaire-là, c'est un corridor scolaire, de rassurer, de créer de la sécurité routière. Alors, vous me dites, le coup d'œil, il a l'air bizarre. Vous avez raison, je vous le donne. Maintenant, quelqu'un qui le fait en vélo, il ne pognera pas le mal de cœur. Il ne fera pas une crise d'épilepsie parce qu'il a pris cette piste cyclable-là. Le coup d'œil et ce que ça donne comme aspect visuel, c'est pas intéressant, on est d'accord. Mais il va quand même avoir des jeunes qui vont être sécurisés dans leur cheminement de corridor scolaire. C'est pas juste négatif.
Claude Villeneuve a parlé de votre bilan dans les derniers jours. Ben parlons-en. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a une volonté de faire qui est brouillonne, empressée et qui ne donne pas les résultats. Puis il dit que dans votre bilan, il y a beaucoup de choses qui sont des cadeaux de l'administration précédente. Il fait mention du centre de biométhanisation, de la stratégie de sécurité routière, de la bibliothèque Gabriel-Leroy, de la centrale de police. Moi, je vous ouvre la porte. Il est où votre bilan, monsieur le maire?
Ben, on va en parler. Mais est-ce que vous attendiez d'autres choses du chef de l'opposition d'abord? Est-ce que ça vous surprend que le chef de l'opposition dise cette administration-là, tout ce qui est bien fait, ça vient d'avant, tout ce qui est mal fait, c'est de leur faute? Donc, il n'y a rien de mal fait qui vient d'avant, puis il n'y a rien de bien fait qui vient d'eux autres. On s'entend-tu que ça manque un peu de nuance?
Est-ce que je suis surpris? La réponse, non, absolument non, pas, mais je vous ouvre la porte mais pour...
Je vais t'en parler du bilan. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on investit dans un quartier. La première des choses, c'est qu'on investit dans les structures de quartier, les infrastructures, les terrains de basketball, des murs d'escalade, des parcs, des piscines. On en a fait des projets là, de plus de 100 000. On en a fait plus de 70 dans les dernières années, plus qu'il s'en est jamais fait. Pourquoi? Parce que c'était une de nos promesses. C'était oui, on n'a pas un centre Vidéotron. J'ai rien contre le centre Vidéotron. Il existe. On va pas en créer un deuxième. On va investir là où les gens nous l'ont demandé. Au sortir de la pandémie, les gens nous ont dit investissez dans nos quartiers, dans toute la ville, pas juste dans le centre-ville. Dans le Bourgneuf, dans Val-Bélair, dans Beauport, dans les rivières. C'est ça que les gens souhaitaient. Alors, ça, on le fait. Après ça, on a investi où les gens souhaitaient, c'est-à-dire sur un paquet d'événements qui se sont déplacés en périphérie, sportifs, culturels. Ça fait partie du bilan. Ce qu'on fait en économie, ce qu'on fait en verdure, on a planté 53 000 arbres. Ce qu'on fait en mobilité pour faire la guerre à la congestion, ça aussi, ça fait partie du bilan. On est là-dessus, exactement là où on avait dit qu'on serait. On livre promesses et on va continuer de le faire.
Je suis prêt à vous donner tout ça, mais à la lumière de tout ça, sais-tu ce que le monde veut si vous n'êtes pas capable d'avoir un taux de satisfaction au-delà du 45% dans les sondages, alors que l'opposition est à peu près invisible à Québec, à part le fantôme de Sam Hamad? Est-ce que vous êtes allé dans les bons endroits? Est-ce que ces engagements-là, les gens les voient concrètement? Comment vous l'expliquez que votre taux de satisfaction soit aussi difficile?
Bien, très bonne question. Moi, je pense que ça n'a pas de lien avec ce que. Puis la question est légitime. Je pense que ça n'a pas de lien avec ça.
Non.
Ça a un lien avec d'autres choses.
OK.
Mon analyse, c'est que d'abord, partout en Occident, présentement, les gens voient toutes les transformations dans nos sociétés, le coût de la vie, ce qui coûte plus cher. On voit à l'épicerie, ça nous coûte plus cher, l'essence, etc. La capacité du citoyen de faire la même chose avec son argent qu'avant est réduite. On s'entend. OK, ça, c'est clair. Fait que ça crée une espèce de morosité. C'est pas juste ici, là. C'est comme ça dans les provinces canadiennes, c'est comme ça dans les autres villes, c'est comme ça aux États-Unis, on l'a vu.
Fait que le maire Marchand est impopulaire à cause de l'inflation nord-américaine?
Non, attends, je te dis que c'est un des éléments, c'est pas le seul. Le deuxième, c'est lié à un projet dont on parle tout le temps, qui est le tramway, et qui pour l'instant n'a pas abouti. Mm. Et ce projet-là n'est pas le plus populaire, parce qu'il y a à peu près 55 % des gens ou 60 qui sont contre. Bien, c'est sûr que quand t'es le maire qui te dit faut le faire, bien, c'est sûr qu'on se rend compte, on s'entend dessus que t'as du vent dans la face. T'as du vent dans la face parce que le projet dont on parle tout le temps, c'est pas moi qui en parle, les médias en parlent continuellement, et en plus, qui a été remis en question plusieurs fois, bien, nécessairement, ça vient teinter, ça vient plomber. Troisième des choses, on a décidé de faire de la politique où on serait courageuse, ou même si cette politique-là, on la voulait courageuse, ou même si des fois, ça pouvait bousculer les habitudes, on pouvait pas, le statu quo était pas acceptable parce que les gens allaient payer, parce que les gens allaient souffrir du statu quo, notamment sur la congestion. Quand on dit qu'il y a 227 000 personnes qui vont venir s'établir à Québec 2051, ça, c'est pas ma décision, c'est comme ça par des décisions qui sont au-dessus de moi, mais si moi, je travaille pas mieux et pas plus vite, le monde va être pogné encore plus en congestion puis ils vont être en tabarnouche. Alors oui, les changements qu'on fait parfois occasionnent du questionnement, de l'incertitude, il y a des gens qui se demandent. En même temps, ceux qui présentement disent « Ah, on n'a pas besoin de rien faire », ce sont des gens qui vont nous laisser dans la congestion. Puis quand on va être hyper mal pris, non, ils n'auront pas eu le vent de face d'avoir amené les changements. Parce que quand tu amènes des changements, ça, parfois ça dérange, ça bouscule, c'est normal. Bien, eux autres n'auront pas fait ça, mais pendant que c'est le temps de le faire, ils ne l'auront pas fait. Et pendant 5, 10, 15 ans après, on va être pogné avec les conséquences de ça. Moi, je refuse ça. Alors oui, ça a de l'impact. Oui, parfois on fait des choses pour lesquelles les gens... Évidemment, ça bouscule leur quotidien, puis je les comprends. Mais ça fait partie de l'analyse aussi que quand tu fais ces changements-là, ben, t'es un peu plus questionné que si tu les fais pas.
On est à jaser des bilans, puis j'ai le goût de vous installer à confesse, monsieur le maire, parce que là, vous avez expliqué... Non, j'ai un oncle moine, là, mais on parlera de ça une autre fois. non, c'est parce que vous expliquez toutes les raisons et ainsi de suite, mais dans les dernières années, est-ce qu'il y a des choses où le maire Marchand, lui, directement, a commis des erreurs? Est-ce qu'il y a eu... des problèmes de communication? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises décisions? Est-ce qu'il y a eu de l'arrogance à un moment donné? Si on fait le bilan des dernières années, puis que vous regardez dans le miroir, c'est où les erreurs que vous, vous êtes capable de vous pointer du doigt?
Non, mais c'est sûr qu'il y a eu des erreurs. Tu sais, prends l'exemple, l'année passée, quand on a communiqué la première interdiction de faire des feux dans un épisode de smog.
Oui, ça a super bien été.
Ça a super... c'est un exemple extraordinaire de communication.
Ouais.
C'est sûr que ça, c'est une erreur. Quand j'ai communiqué sur le restaurant coréen, parce que je pensais que c'était important la question du français, est-ce que j'ai bien communiqué? Ben non, j'ai pas bien communiqué. Est-ce qu'il y a de l'arrogance? Non, il n'y a pas d'arrogance. Honnêtement, là, je suis pas quelqu'un d'arrogant.
Okay.
Est-ce que je dis les choses avec conviction? Est-ce que je dis les choses en mettant toute mon âme, tout mon cœur? La réponse est oui. Mais je suis capable de regarder en arrière de ça, on aurait dû mieux le faire. Ça, on aurait pu mieux le faire. Ça, on l'a bien fait. Puis parfois, ben, nécessairement, il faut accepter de faire des erreurs puis se corriger. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Si on attend d'être parfait, on ne bougera jamais. Alors oui, des fois, on a pris des risques. On parlait tantôt de la piste du Cénacle. Est-ce qu'au final, c'est une bonne chose? Ben non, on va le corriger. On va corriger ce qu'on peut, puis on ne le refera plus. Mais si on attend d'être parfait, on ne bougera pas. On va avoir une ville stagnante.
Est-ce que taxer les chats, c'était une bonne chose?
Ah, ben oui. Ben oui. Attends, mais
il y a
non,
des commentaires qui rentrent par texto.
Il y a des gens qui vous suggèrent des erreurs,
monsieur
le maire.
Il y a des gens qui la posent, la question.
Mais ça, ben ça, regardez, on parle des maths. Je comprends les gens me dire... cette semaine, on va passer un sommaire où on va dépenser plus de 1,5 million pour la SPCA. Pourquoi? Parce que depuis la pandémie, 70% des frais liés à la SPCA sont pour ramasser des chats errants, ramasser des chats qui sont abandonnés et faire en sorte de les traiter. Ça, je parle même pas des litières de chats qui coûtent un prix de fou à gérer dans les poubelles, là. Fait que quand les gens disent « Ah, mais c'est écœurant qu'ils fassent ça », on change même pas le prix que ça coûte. Mais oui, quelqu'un qui a un chat, nécessairement, pour toute la collectivité, ça coûte plus cher. Alors, il n'y a pas d'enjeu à enregistrer son chat. Le but ici, c'était pas de faire de l'argent, c'était juste de dire « Soyez conscients qu'en ayant un chat, ça coûte plus cher à tout le monde. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de chat. On est juste en train de dire qu'on s'adapte à une réalité depuis quelques années où ça nous coûte des centaines et des centaines de millions, de milliers, pardon, pour faire en sorte qu'on arrive à couvrir les frais. C'est en augmentation depuis la pandémie. Et l'argent qu'on amène avec l'immatriculation, mais l'enregistrement des chats, là, c'est même pas le 1/15e, le 1/20e de ce qu'on investit. On ne charge pas tout aux gens. On est juste en train de leur dire, oui, avoir un chat, ça a des coûts. Et oui, l'enregistrement, ça nous permet d'être, comme ville, de couvrir une petite, petite portion des coûts.
J'ai eu deux conversations, monsieur le maire, dans les derniers jours, une avec un gars de Québec, puis une avec un ami de Montréal. Puis je veux vous donner l'opportunité de répondre aux choses que j'ai entendues, qui, je trouve, résument beaucoup de choses, là, parce que les textos déboulent comme vous n'avez pas idée depuis une dizaine de minutes. La personne de Québec qui jasait des dernières années disait... Moi, j'ai l'impression qu'on me demande plus d'argent, puis plus d'argent, puis plus d'argent, puis là, c'est les chats, puis là, c'est la taxe à l'immatriculation, le prix de ma maison, puis ainsi de suite. On me demande plus d'argent, puis autour de moi, ben ce qui change, c'est pas pour le mieux. On est dans les travaux par-dessus la tête. Il y avait un maire avant qui nous avait promis que ça achevait ce bout-là. Au niveau de la sécurité, Québec en a perdu beaucoup. Je me sens moins en sécurité dans ma ville. On me parle de tramway depuis 10 ans, il n'y a pas de tramway. On me parle d'un troisième lien depuis 10 ans, il n'y en a pas de troisième lien. Présentement, j'ai l'impression qu'on vient me chercher beaucoup d'argent dans mon portefeuille, puis qu'autour de moi, ce qui change, c'est pas en positif, mais en négatif. Vous répondez quoi à ça?
Ben moi, je pense que je comprends la personne de dire ça. Il y a des choses qui changent en négatif. On parlait tantôt d'éléments liés à la consommation, à notre pouvoir d'achat, à l'épicerie, un paquet d'affaires. Par rapport aux travaux, oui, il y a des travaux. Il y aura toujours des travaux. Pourquoi? Parce qu'on rénove nos infrastructures pour les garder à jour. C'est important de le faire. Mais il y a bien des choses qui vont bien. Les bases de plein air gratuites pour tous, ça, c'est des gains que les gens aiment beaucoup. Quand on améliore la capacité de se déplacer sur le territoire, c'est des choses que les gens aiment beaucoup. Quand on regarde notre économie qui va bien, qui va mieux que bien d'autres économies, parce qu'on y investit, parce qu'on soutient nos entreprises, parce qu'on travaille avec des jeunes pousses, avec des start-up, des nouvelles entreprises pour faire en sorte que cette économie se diversifie, il y en a là aussi pour un paquet de gens qui font en sorte qu'ils bénéficient de cette économie-là. Est-ce que tout va bien? Non. Mais les gens qui viennent de l'extérieur, ce qu'ils nous disent, c'est que j'avais une belle ville. Honnêtement, la question de la sécurité, c'est intéressant. On va s'entendre, là, peu importe le maire, le contexte de gang de rue, de gang criminalisée, ça n'a pas rapport au maire. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent pour faire en sorte de venir à bout de ça? La réponse est oui. Oui, ça coûte plus cher, c'est vrai. Oui, on va engager plus de policiers. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est important. Est-ce que le contexte fait en sorte que la personne, elle a voulu ça? Non. Mais pour qu'on ait plus de sécurité, pour pas perdre ce sentiment de sécurité à Québec qui est important, oui, il faut mettre plus d'argent, oui, ça coûte plus cher. L'itinérance, c'est la même chose. Il y a effectivement beaucoup de choses qui coûtent plus cher. En même temps, je pense qu'on fait de Québec une ville où ça reste sécuritaire, puis on va continuer de se battre pour ça. On fait d'une ville de Québec qui se préoccupe de son monde, qui fait en sorte de créer du logement, par exemple. Juste en logement, OK, la nouvelle réalité, on mettait avant à peu près l'équivalent de 16 millions. Bien, depuis 3 ans, on met 3 fois plus. On a dépassé, on approche les 50 millions. Pourquoi? Parce que faire du logement social, ça coûte plus cher que ça n'a jamais coûté.
Et on ne suffit pas à la demande, par exemple. On le voit, là, je veux dire, concrètement, dans les rues. Là.
On ne suffit pas à la demande. Cependant, on est une des villes qui a la meilleure progression en construction de logements. Et en logement social et abordable, on a construit, les mises en chantier 2024, c'est 906. C'est un record absolu qu'on n'avait jamais fait à Québec. Alors, c'est pas, tu sais, c'est vrai qu'il y a des défis, là. La personne elle a raison quand elle parle d'itinérance, de sécurité, quand elle parle d'enjeux. Il y a des enjeux à Québec. C'est pas une comédie musicale où tout est en rose, ça n'a pas rapport. Puis que les gens, des fois, soient fâchés, déçus, c'est tout à fait normal. En même temps, les grands enjeux que les gens nous nomment, puis on parle du logement, on est vraiment axé là-dessus à mettre tous nos efforts pour faire en sorte qu'il y ait du logement pour tout le monde. On a changé nos processus, on a changé l'émission de nos permis, on travaille encore mieux que les promoteurs. Plein de promoteurs nous disent « la ville a changé depuis 2 ans, ça travaille beaucoup mieux ». Justement pour accélérer ça, on a changé notre posture parce qu'on s'adapte à ces réalités qui, oui, parfois coûtent plus cher, mais pour lesquelles on est vraiment, vraiment dédié, engagé pour faire en sorte de trouver des solutions. Et nos résultats sont meilleurs que d'autres villes ailleurs au Canada.
Vous l'avez dit, Monsieur le maire, il y a beaucoup de gens qui viennent à Québec et qui disent et qui trouvent que c'est une belle ville, mais c'est peut-être un sentiment qui est en train de s'étioler. Je veux vous parler de mon ami de Montréal qui est revenu à Québec, puis ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, puis je ne veux pas nécessairement le nommer, mais il me disait « Denis, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Québec, mais c'est rendu Montréal, il y a des travaux partout, c'est rendu plus laite, c'est rendu rempli de sans-abri. » J'ai dit « Je ne reconnais plus la ville dans laquelle j'étais bien il y a 8 ou 9 ans. » Je caricature un peu, mais le sentiment, j'ai eu ce sentiment-là à un moment donné vis-à-vis Boston. Ça faisait une couple d'années que je n'étais pas allé, puis tu retournes dans une ville que tu trouvais belle, puis là tu te dis « Tabarnouche, il me semble que c'est moins beau, il me semble qu'il y a du laisser-aller, il me semble qu'au niveau de la propreté et ainsi de suite. » Puis moi, je suis un gars assez fier-pète. Ça fait 25 ans que je reste à Québec, puis j'aime ça me péter bretelles comme étant un gars de Québec. D'entendre des commentaires de même, on dirait que ça vient me chercher en dessous des ongles, puis c'est encore pire d'être obligé de reconnaître que le Montréalais, il y a un point en disant qu'on est en train peut-être de se montréaliser dans le mauvais sens du terme.
Oui, il y a des changements. Là. On est passé de 600 à 1000 itinérants dans un contexte de pandémie, de post-pandémie, d'enjeux liés à la drogue. C'est sûr qu'il y en a plus d'itinérants. Là. Mais moi, les gens que je rencontre, les gens, ce qu'ils me disent, qui viennent d'ailleurs, c'est que votre ville est propre, votre ville est verte, votre ville est belle, il y a un sentiment de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux sur lesquels on doit faire attention pour éviter de dériver? C'est sûr, là. Puis oui, il y a plus d'itinérance. Puis oui, les enjeux de sécurité, on les a nommés, compte tenu de ce qui se passe avec la gang des motards, les gangs criminels, les gangs de rue. Mais oui, on s'y attaque, puis on va continuer de s'y attaquer. Puis la police est à pied d'œuvre là-dessus, puis on ne laissera pas faire ça. Maintenant, c'est ça aussi une ville, c'est la capacité de s'adapter à un contexte. Si Québec est laide à cause de ses itinérants, ce avec quoi je suis pas d'accord, même s'il y en a plus, il faut travailler, il reste quand même que je regarde des grandes villes canadiennes, Montréal n'a pas le nommé, la situation est pas mal pire, là. Alors, le but, c'est pas de se comparer à pire que nous, le but, c'est pas de se comparer à des villes qui ont plus d'enjeux que nous, mais c'est de se dire, dans le cas de l'itinérance, c'est un enjeu dont la responsabilité appartient au gouvernement du Québec. On a mis 4 millions de plus, on en met de l'argent. Il faut que le gouvernement du Québec suive aussi. En met plus, il faut qu'il en mette à la hauteur du problème.
Mais on ouvre la porte là-dessus, M. le maire, parce que j'ai rattrapé un peu mes journées de congé au niveau de l'information, puis je voulais savoir où est-ce qu'on en était justement avec cette enveloppe-là, de l'argent du fédéral, de l'argent du provincial, puis c'est pour contrer l'itinérance cet hiver. On a-tu réussi à faire avancer ce dossier-là? Parce que là, il semble y avoir une petite brouille entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Qui met combien? Là?
Ben alors, le gouvernement fédéral a dit, nous, on va mettre 50 millions.
Oui.
Si le gouvernement du Québec met autant. Et là, aux dernières nouvelles, j'ai pas eu de nouvelles récentes aujourd'hui, là. Aux dernières nouvelles, c'était encore en négociation, c'était en tractation. Alors, ce qu'on a fait, la mairesse de Montréal, la mairesse de Gatineau et moi, c'est signé une lettre en disant, cet argent-là, donc 100 millions pour le Québec, c'est pas 100 millions pour la ville de Québec, mais des dizaines ou plusieurs millions pour Québec, c'est important de faire la différence. Alors, vous parliez tantôt de lieux de répit en hiver, parce que ça arrive au moment où l'hiver arrive. On travaille avec le CIUSSS à avoir deux lieux de répit cette année. Bien, si on a de l'argent de plus, ça va permettre de mettre plus de personnes pour venir supporter, plus de lieux de répit peut-être, faire en sorte qu'on fasse une différence, faire en sorte qu'on centralise pas l'itinérance à un seul endroit, parce que l'année passée, on avait juste un lieu de répit, ça a créé des enjeux et des problèmes. Et plus que ça, faire en sorte qu'on multiplie les initiatives qui fonctionnent. À Québec, il y a un groupe, 8 groupes communautaires sous l'égide porte-clés qui ont sorti 240 personnes de la rue sur 300 avec qui ils ont travaillé. Donc, 80% de stabilité résidentielle. Et si on avait, ça coûte 800 000 $ par année. Là. Si on avait deux fois, trois fois ça, imaginez combien de personnes itinérantes qu'on pourrait sortir de la rue. C'est fou. Ça marche. Maintenant, il faut le faire, il faut le multiplier. C'est à ça qu'on s'attarde. Cet argent-là pourrait servir à ça.
Monsieur Marchand, il y a quelques semaines à peine, Jonathan Julien, qui est entre autres le ministre responsable de la région de Québec, disait que non, il n'y avait pas de dégradation dans Saint-Roch, que c'était des enjeux, alors que quiconque se promène sur Saint-Joseph le sait, que la SDC crie haut et fort qu'on a besoin d'aide. Est-ce qu'il a une bonne vision de ce qui se passe dans la capitale nationale, puis principalement dans ce dossier-là?
Pour aller nous représenter, pour aller chercher ces sommes d'argent.
Exactement.
Bien, on lui rappelle tout le temps, là, puis moi, cet élément-là, je ne suis pas d'accord. Il y a une augmentation. On est passé de 600 à 1000 itinérants. Fait que 400 itinérants de plus ne sont pas tous dans Saint-Roch. On en voit partout en ville, à des endroits même où on n'en voyait pas. Ça, c'est la tendance qu'on voit partout au Québec, au Canada. Ça s'étire, ça va plus loin, ça va dans des secteurs où il n'y en avait pas. Mais c'est pas vrai que l'itinérance ne s'est pas dégradée. L'itinérance a malheureusement, avec les dernières années, a vu une augmentation. Puis ce qu'on voit, c'est pas juste un nombre, c'est aussi des comportements. Des gens qui sont avec des comportements, soit parce qu'ils ont consommé des drogues complètement abjectes qui les rendent encore plus en perte de contact avec
disruptif,
la réalité,
ouais.
qui savent même plus. Tu sais, on peut parler de la drogue du zombie, mais on peut parler de ce type de gestes-là de gens où on ne sait pas quoi faire. Et c'est normal que les gens ne sachent pas quoi faire, mais c'est à nous, comme gouvernement du Québec, puis les villes, on s'y affaire, à faire en sorte que toute l'itinérance des villes, on travaille à offrir des lieux pour habiter, des appartements supervisés, de l'accompagnement, parce qu'on sait que ça marche, et parce que sortir les gens de la rue, c'est de leur redonner de la dignité, c'est de leur redonner du pouvoir sur eux-mêmes, c'est aussi améliorer le vivre ensemble, parce que on peut pas s'attendre que quelqu'un qui a un commerce se mette à être travailleur social, puis comprenne la personne qui est en totale désorganisation, ça n'arrivera pas. Tout comme, c'est pas parce que tu es un itinérant, si tu commets un crime, ben tu mérites d'être arrêté. Tu peux pas vendre de la drogue, mais ah oui, moi je suis itinérant, arrêtez-moi pas, ben non. Ça marche pas. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, on comprend que ta condition n'est pas nécessairement simple.
Ouais.
Maintenant, ça t'empêche. Ça ne te donne pas le droit de tout faire. Alors, dans ce sens-là, il faut être capable à la fois d'accompagner, soutenir, prendre soin des gens, mais aussi mettre de l'ordre pour faire en sorte que les citoyens se sentent en sécurité.
Monsieur Marchand, la question est peut-être un peu champ gauche, ou je me révise, c'est peut-être un peu champ droit, mais Donald Trump est président des États-Unis. Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Premièrement, est-ce que ça vous surprend? Puis deuxièmement, vous voyez ça et vous analysez ça, comment ce qui s'est passé au sud de la frontière?
Ben, ça me surprend pas, là, parce que tout le monde disait que ça allait être serré. En même temps, quand on regardait la dernière élection, quand Biden a été élu, il y avait 3 points d'avance, 3-4 points d'avance selon certains sondages, alors que là, cette fois-ci, Kamala Harris avait aucune avance. Donc, il y a comme une prime à l'urne chez les républicains là, qui apparaît pas tant que ça dans les sondages. Puis la façon dont est fait le système électoral américain, ça donne peut-être certains avantages. Est-ce que j'aurais gagé ma maison qui aurait été élue? Non, mais je suis pas surpris non plus. Après ça, comment je vois ça? Moi, je pense que c'est... Puis là, je ne fais pas référence républicain, démocrate, gauche-droite. Il y a de très bonnes choses à la droite, il y a de très bonnes choses à la gauche. Il y a de très mauvaises choses dans les extrêmes. Puis tantôt, vous aviez une conversation là-dessus, puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Là.
Ouais.
Les extrêmes à gauche comme les extrêmes à droite me font très peur. Puis je ne pense pas que c'est la façon qu'on devrait se gouverner. Mais je pense que Trump, dans certains extrêmes, je ne fais même pas référence à gauche-droite, je fais référence plutôt à ses comportements d'abord. Bien, il libère du monde qui sont misogynes, qui sont contre les femmes. Il libère du monde qui pense que c'est normal de pouvoir agresser une femme parce que lui, il l'a fait en toute impunité. Il libère du monde parce que c'est pas grave d'être raciste. Mais quand tu as un président américain qui a ce comportement-là, qui a ces propos-là, qui rit des handicapés, qui rit des femmes, bien, nécessairement, ça entraîne du monde à penser que c'est normal. Et ça, au-delà de toutes les politiques, là, toutes les questions politiques, ça, moi, je trouve ça inacceptable.
Mais parce qu'est-ce que...
Comme leader, ça ne peut pas qu'on cautionne ça.
Je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, écoute, tombés en bas de leur chaise quand ils ont vu que Donald Trump retournait à la Maison-Blanche pour les raisons que vous venez de nommer puis que tout le monde voit et comprend. Mais pour que l'électeur décide de passer par-dessus tout ça pour des raisons qu'il a sûrement jugées bonnes et valables, y a-tu quelque chose que les politiciens doivent apprendre ou retenir du phénomène Donald Trump?
Je pense que oui.
C'est quoi?
C'est pas égal partout. Là. On n'est pas dans la même situation. Vous avez vu les sondages qui disaient comment les Québécois auraient voté par rapport à Donald Trump. Je pense qu'il n'obtenait pas plus que 20% d'appui au Québec. On comprend que c'est pas nous autres qui l'élit, là, mais
non.
Dans les sondages, les Québécois sont pas comme ça. Puis heureusement, c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a-tu quelque chose à apprendre? La réponse est oui. Je vais vous donner un exemple qui est tout récent. On en a parlé en début d'entrevue. Le RTC.
Ouais.
Si j'avais été Donald Trump, qu'est-ce que j'aurais dit à la suite du rapport? J'aurais dit, c'est tout des pas bons. Le RTC, c'est tout des pas bons. Puis savez-vous quoi? Je vais lui couper 50 millions. Je vais le donner au privé. Puis vous allez être mieux servi. C'est facile de penser qu'à travers une situation complexe, il y a une solution simple qui émerge. Là, pas de nuance. D'abord, je suis convaincu que tout n'est pas bon, ce qui n'est pas vrai. J'aurais peut-être attaqué les syndicats. C'est la faute des syndicats, ce qui n'est pas vrai non plus. J'aurais dit, moi, l'argent que je donne, je ne la donne plus parce que je n'ai pas le service. Je vais le donner au privé parce que le privé, c'est apparemment extraordinaire et c'est meilleur. Bien, savez-vous quoi? 2, 3, 4 ans plus tard, je n'aurais pas amélioré le service.
Mais est-ce que...
Est-ce
que dans des situations où la vie est plus difficile, l'économie, c'est plus tough, l'inflation est en hausse, c'est ça que l'électeur veut entendre?
Bien, je pense qu'au Québec, on est plus nuancé, du moins je l'espère. Moi, c'est comme ça que je fais de la politique, dans le sens où j'essaie d'être nuancé, puis j'essaie d'apprendre, puis j'essaie de ne pas faire ces effets de toge-là, là, puis de dire, eux autres, c'est pas bon, puis moi, je vais vous montrer comment faire. Mais tu as raison de dire que dans des moments comme ça, on aimerait ça qu'il y ait des solutions simples. On aimerait ça qu'à des problèmes complexes, l'itinérance, il y a quelqu'un qui dise, hey, moi, je l'ai la solution. Mais je m'excuse, la personne qui va vous dire ça, là, elle vous ment. Elle vous ment parce que c'est un problème complexe qui s'est élevé à travers 10, 15 ans, à travers des drogues, à travers des enjeux financiers, à travers des enjeux de logement. Si quelqu'un vous dit « j'ai une solution simple à ça, j'ai une solution simple à la congestion », ben c'est quelqu'un qui vous ment. Pourquoi?
Ben, ça nous prendrait-tu un peu plus de transparence à ce moment-là pour comprendre vos démarches? Parce que j'ai l'impression que malheureusement, c'est ce qui plaît aux gens de voir qu'il y a des décisions qui sont prises, même si ce n'est pas les bonnes.
Pour qu'on embarque dans un discours simpliste, c'est-tu parce que vous communiquez mal ou que vous expliquez mal les enjeux et les dossiers?
Ben, là, moi, je
parle des politiciens en général et peut-être de M. Marchand en particulier, là, mais c'est une question intéressante.
Bien, ce que je communique mal, je suis bien mal placé pour en juger. Les gens sont mieux placés que moi. On a toujours l'impression d'essayer de communiquer le mieux possible, parce que j'y arrive peut-être pas. Mais l'enjeu ici, c'est qu'on est dans une ère où la nuance n'est pas payante. La nuance, être nuancé, ça veut dire qu'il y a des teintes de gris. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits réels. Moi, là, je fais des efforts réels pour la guerre à la congestion. En même temps, c'est sûr que quand je dis aux gens « ça prend un tramway », bien, il y a du monde qui disent non, ça prend pas de tramway, donc Marchand, t'as tort, Marchand, t'es con, Marchand, je suis pas d'accord avec toi, puis je t'aime pas. Mais quand je regarde l'ensemble des données, pourquoi je dis que ça prend un tramway? Parce que c'est la seule façon d'arriver à faire la guerre à la congestion par rapport à un projet structurant. On n'en aura pas d'autre. Puis cet argent-là, il est à nous, là. Quand Pierre Poilievre dit je donnerai pas d'argent au tramway, il a le droit. En même temps, nous, on l'a payé. Le tram à Edmonton, nous, on l'a payé. Le train à Vancouver, avec nos impôts fédéraux, c'est pas juste nous autres qui l'avons payé. Mais nos argents sont allés là-dedans. Pourquoi ça serait pas notre tour? Je comprends que les gens n'aiment pas ça. En même temps, partout où on a bâti ce type d'infrastructure-là, une fois qu'elle a été bâtie, les gens ne voulaient plus revenir en arrière.
Mais ce qu'on attend la plupart des gens, c'est pas nécessairement qu'on veut pas de transport en commun, c'est que les gens, entre autres M. Poilievre, critiquent le projet de tramway. Comment ça se fait qu'on a encore cette perception-là, quasiment 10 ans plus tard, que ce qui est sur la table, c'est pas le bon projet pour Québec?
Ben,
c'est qu'il y a un problème de communication quelque part.
Peut-être non, parce qu'il a changé pas. 3 fois aussi.
Ben, oui,
là,
c'est mais ça. Bon. Non, mais parce que... Non, mais attends, c'est peut-être un problème de communication, là. Comme je vous dis, je suis peut-être mauvais juge de moi-même, là. Mais M. Labeaume n'est pas plus arrivé avant. D'abord, ce projet-là, il a été remis en question plusieurs fois. Il a été remis sur la table plusieurs fois. Il a été supporté, pas supporté, hésité, douté. Fait que nécessairement, quelque chose qui prend 5 ans, tu as nommé 10 ans, tu as tout à fait raison, 10 ans arrivé, il finit toujours par s'étioler, là. Ces grands projets-là, c'est pas juste à Québec, là. La tendance est comme ça dans bien des endroits. à force d'attendre, ben, on finit par se dire, ça vaut-tu la peine, c'est intéressant, je suis pas sûr. Puis c'est sûr, puis les coûts augmentent. Qu'est-ce qu'il y a pour lui, ce projet-là, dans le temps? Autrement qu'à un moment donné, si on le livre, les gens vont être contents, puis vont voir la différence. Mais tant que tu n'arrives pas avec des gains, tant que un projet comme ça, tu n'arrives pas avec des gains. Fait, qu'est-ce qui arrive? Les gens, ils font, ils se mettent à douter, c'est normal. Hmm.
En terminant, une petite dernière pour la route. Moi, j'aime ça me préparer bien à l'avance pour des entrevues. Puis à un moment donné, sa mamade, il va se lancer dans la course à la mairie. Fait que je commence à prendre les questions. C'est quoi les premières questions qui vous viennent en tête que vous aimeriez poser à sa mamade, candidat à la mairie de Québec?
Ah, c'est une très bonne question, mais ça, je vais te laisser ça. Il y aura une belle campagne pour qu'on en débatte. On va avoir deux visions de la ville bien différentes. Fait que ce sera à lui d'exposer sa vision.
Vous pensez que les visions vont être différentes? Sur quel aspect, d'après vous?
Ils vont être opposés sur le transport. Ils vont être opposés sur la guerre à la congestion, sur le transport collectif. Ils vont être opposés sur l'ensemble des modalités pour faire en sorte de déplacer des gens. Ils vont être opposés sur la vision économique qui ne sera pas la même. Ils vont être opposés sur un paquet d'affaires. Les gens vont avoir le choix. Les gens vont avoir le choix, puis on est deux personnalités complètement différentes. On est deux personnalités totalement différentes, avec un parcours, avec un historique différent. Les gens pourront faire un choix, mais c'est pas vrai que c'est la même ville 4 ans plus tard avec lui ou avec moi. C'est pas la même ville.
Monsieur Marchand.
Les gens ont le droit de choisir, là. Moi, je respecte le choix des citoyens là-dedans, mais on a des villes qui seront différentes.
Avez-vous hâte?
Ben oui. Ben oui, j'ai hâte. Mais c'est ça, la démocratie. Oui. Est-ce que M. Hamad a une chance de gagner? Ben oui. Est-ce que je suis arrogant? Pas du tout. Est-ce que ça va être un âpre combat? C'est sûr.
Non, mais ça doit être un peu emmerdant de se battre contre un fantôme qui est là, mais qui n'est pas là. Puis on attend les idées, puis on attend les projets. Ça place tout le monde, je trouve, dans une position d'attente. Là, ce serait peut-être le temps qu'on aboutisse puis qu'on commence justement à échanger concrètement sur
ça,
c'est
ça,
quoi
ça les... appartient, là. C'est à vous de juger pourquoi il attend aussi longtemps. C'est à vous de juger pourquoi on attend Godot qui n'arrive jamais. C'est à vous de juger pourquoi... Ton effeuillage de l'histoire moderne de la politique municipale, ça y appartient, il se défendra. Moi, ce que je fais pendant ce temps-là, c'est que je suis pas en élection, je bâtis la ville, j'essaie de régler les enjeux. On travaille sur les priorités, le logement, la mobilité, la congestion, les enjeux économiques. On travaille sur la vie de quartier, on travaille à améliorer le sort des gens, la qualité de vie, la sécurité. Moi, je me travaille d'arrache-pied. Puis le but, c'est pas d'être réélu en faisant ça, c'est d'honorer la confiance que les gens m'ont donnée. Puis ce qui est plate dans ce mandat-là, puis qu'est-ce que vous voulez, je pourrais jamais faire autrement. Bien, ce mandat-là va avoir été couvert par un mandat autour du tramway où ça fait 3 ans, dans le cas de ce mandat-là, où on en parle, qui commence à peut-être arriver. Bien, c'est sûr que ça teinte la suite des choses. C'est sûr que ça teinte l'opinion des gens. Mais quand on regarde ce qu'on a fait depuis 3 ans, j'en suis très fier. On n'a vraiment pas juste fait le tramway. On n'a fait pas. Malheureusement, dans les médias, c'est le sujet qui polarise le plus. C'est le sujet dont on parle le plus. Mais c'est fou ce qu'on a fait par rapport à la sécurité routière d'un quartier, ne serait-ce que ça pour la nommer. Mais moi, j'y crois, puis on va continuer de le faire avec mon équipe. J'ai une équipe qui est dédiée, qui est vraiment engagée, puis on va continuer de le faire. Puis après ça, il y aura une période électorale, puis les gens jugeront.
Hey, M. Marchand, merci beaucoup pour le temps accordé. C'est très apprécié.
Ça fait plaisir. La prochaine fois, je suis avec vous autres.
Excellent.
Le père, là, oui, en studio.
Merci beaucoup. Hey, M. Marchand, Bruno Marchand, le maire de la ville de Québec, qui, désolé pour les petits manques au niveau du cellulaire, on me dit qu'il était en train de faire du vélo à Beauport.
Oui, il prenait les bosses dans la pump track.
Dans quel secteur? Dans la nouvelle marmotta de Beauport.
La marmotta urbaine.
Il y a beaucoup, beaucoup de réactions, mais avant de revenir là-dessus, c'est drôle parce qu'on disait qu'on améliorait la qualité de la ville et ainsi de suite, puis pendant ce temps-là, bon, on avait des communiqués de la Ville de Québec qui font état de certains problèmes.
Mais ce n'est pas lié aux travaux de la Ville. On nous avait rapporté qu'il y avait eu un effondrement d'une partie du chemin Saint-Louis dans le secteur des hôtels.
De même, là,
c'est un effondrement d'un mur de soutènement dans une trouée d'excavation. Il y a eu évacuation préventive du bâtiment voisin.
Il y avait de la circulation là, dans ce coin-là.
Ben oui, il y a toujours de la circulation dans ce coin-là.
Non, je veux dire, ce n'était pas un secteur fermé.
Ce n'était pas un secteur qui était fermé. Donc, on ferme le chemin Saint-Louis dans les deux directions entre l'avenue des Hôtels et l'avenue de la Vigerie pour une durée indéterminée. C'est une fermeture préventive. Le glissement de terrain en question qui est survenu sur un chantier résidentiel privé situé à proximité. Il y a des experts qui sont sur place pour évaluer la situation. Donc, on a installé de la signalisation dans le secteur pour les automobilistes et les piétons qui devront utiliser des parcours alternatifs.
Et dans la circulation, Audrey, beaucoup de choses.
Mais tant qu'à y être, on nous rapporte un gros accident coin Louis XIV et Saint-Michel. Au moins une voiture. On dit qu'il y a un lampadaire de lumière qui serait tombé. tomber sur une voiture, là, peut-être éviter le secteur dans ce coin-là. Si vous êtes sur Laurentienne, direction nord, entre la capitale et le boulevard Jean-Talon Est, c'est assez compliqué en ce moment. Si vous êtes sur la capitale, direction est, c'est concentré pas mal à la hauteur de Robert Bourassa, là, ouest à la hauteur de Laurentienne. D'ailleurs, Robert Bourassa, direction nord, entre Wilfrid Hamel et la capitale, il y a de la congestion quand même pas pire. Si vous êtes sur Henri IV Nord, dans le coin de la capitale, c'est aussi au ralenti. Direction sud, c'est à l'entrée du pont qu'il semble y avoir un léger ralentissement. Sinon, ça se passe dans le coin de Val-Bélair, à la hauteur de l'avenue industrielle Henri IV Nord. Rive sud, c'est complètement dégagé. C'est franchement rare. Profitez-en, tant évidemment. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021.
On vient de passer une demi-heure, peut-être même un peu plus, de conversation avec le maire Bruno Marchand. On pense ce qu'on veut des idées de l'individu, des réponses aux questions. Moi, j'apprécie ce temps-là. Mais je le trouve important. Ça permet d'en apprendre un peu plus, que ça vous plaise ou non.
Ouais, les réponses lui appartiennent.
Hein? Oui, absolument.
Mm-hmm. Mais oui, il y a quelque chose que je trouve franchement intéressant. Tu as parlé de Donald Trump, puis j'avais jamais, on dirait, vu cet aspect-là, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est un irritant personnellement et pour une majorité de gens, visiblement, le fait qu'on n'a jamais le sentiment qu'il y a des décisions qui sont prises, en fait. On a toujours l'impression d'être en... J'ai l'impression, je vais parler personnellement, mais toujours l'impression d'être en suspens par rapport à tout. Puis il n'y a pas tort, son mandat va avoir été teinté de suspens par rapport à un transport collectif.
C'est effectivement un des points qui revient le plus. Puis l'autre point, c'est qu'on dirait que même malgré les erreurs, c'est jamais des erreurs. Mm. Tu sais, la piste cyclable. Oh, mais on ne l'offre plus.
Véro,
mais...
je lui ai ouvert la porte grand pour qu'il aille à confesse puis qu'il nous dise c'est où qu'il s'est trompé. Puis il nous a mentionné quelques trucs. Puis c'est pas pour rien que je suis allé là, c'est que je voyais les réactions sur les textos de beaucoup de gens qui disent ben là, c'est jamais de la faute à l'hôtel de ville à un moment donné.
Puis tu sais, moi, j'entends beaucoup de gens qui sont déçus de ce qui se passe à la Ville de Québec. Ça semble pas être des échos qui se rendent du côté de la mairie. Puis ça fait longtemps que je vous en parle. Moi, les partis au municipal, je pense que c'est la pire plaie démocratique qu'on peut pas avoir parce que les citoyens vont essayer de parler à leurs conseillers, mais quand on a un parti qui est fort, ce qui est le cas du maire Marchand parce qu'on est majoritaire à l'hôtel de ville, je pense que les messages se rendent juste pas parce qu'on travaille pour un parti, on ne travaille plus pour le citoyen. Puis actuellement, moi, je me sens comme ça à Québec.
Bien, travailler pour le citoyen, c'est un point qui est très intéressant parce que la fameuse piste cyclable, là, je me dis pourquoi le même marchand n'a pas juste dit hey, ça n'a pas de foutu bon sens, vous me recommencez ça.
Mais il l'a dit qu'il va le recommencer, sentir... mais ça a coûté 4 millions,
oui,
je
oui,
pense.
Oui, ça, 100%, mais tu sais, de sortir au effort, puis au-delà de juste assumer, parce que le même marchand assume beaucoup, là, ça. Moi, la phrase que j'entends le plus chaque fois qu'on y parle là, dans les dernières années, c'est « Est-ce qu'on peut s'améliorer? » La réponse, c'est oui.
Mm.
C'est
cité en guillemets,
en fait,
ça,
de façon fondamentale, quelqu'un qui te répond non à cette question-là, là, t'abandonne le projet.
Mais c'est beau de dire que t'es toujours conscient, sauf que ça serait le fun qu'il y ait des actions un peu plus... qu'on prenne des décisions, en fait, concrètes, exactement, qui arrivent avec ça. Là.
16h48, on fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102. C'est Gravel dans le retour.
La circulation.